ressuscité. À toi la victoire.
Bienvenue sur les ondes de Radio Épup Bligny. Oh là, on se croirait en temps de guerre.
Ici Lan. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
En 1944, pendant la guerre, ce message annonçait en code que le débarquement de Normandie allait bientôt avoir lieu. Les auditeurs savaient qu'en entendant le message complet, ils pouvaient espérer une libération. Ce matin, c'est dans la même intention que Daniel et moi-même voulons faire passer un message de la part de Dieu. Une parole d'espérance, une parole de vie. Bienvenue donc dans notre site Épup Bligny. Bienvenue dans notre église virtuelle. Je vous invite à la prière. Seigneur du sein de notre confinement, nous voulons faire taire les bruits du dehors, qui nous empêchent encore d'entendre ta voix, et qu'au travers des diverses interventions, nous puissions discerner peut-être ce message codé qui nous poussera vers la liberté. Apprends-nous à rester branchés sur ta fréquence radio pour ne pas rater la moindre parole qui nous ferait grandir en toi. Qu'à te revienne toute la gloire de ma vie sur terre. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à une lecture dans Romains, chapitre 8, les versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en chemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière.
Ah, l'amour de Dieu. Comment penser que Dieu nous aime dans les conditions actuelles de confinement ? Deuxième épisode, le retour. Comment penser que la situation actuelle peut être assouplie par l'amour de Dieu ? Aimer, c'est passer sur beaucoup de choses. C'est voir l'autre autrement. L'amour aide au pardon. L'amour est aveugle, nous dit l'adage populaire. Ça, en tant qu'être humain, c'est le nôtre. Nous aimons d'abord avec les yeux, tout comme ce qui est dans notre assiette. Si c'est beau, c'est bon. Ce n'est, hélas, pas toujours vrai. Mettez-vous quelques instants à la place de Dieu et regardez la terre. Vu de l'espace, c'est beau, et notre Créateur en est fier. Mais il ne dit pas que c'est beau dans la Genèse, il dit que c'est bon. Et quand il regarde l'homme et la femme auxquels il vient de donner la vie, il ne dit pas qu'ils sont beaux, il s'exclame qu'ils sont bons, et même très bons. Dieu ne regarde pas comme nous, il regarde au cœur, le centre de l'amour. Il n'est pas aveugle pour autant, il ne ferme pas les yeux sur le désastre de la terre, ni sur les abominations des hommes et des femmes. Il aime. Il aime jusqu'à donner la possibilité d'effacer tout ce que la désobéissance de l'homme a pu avoir comme conséquence horrible et tout ce que l'être humain est capable de pire. Il aime jusqu'à donner son fils en rançon pour des personnes qui, au premier regard, n'en valent pas le coup. Ah, ce n'est pas de notre ressort de faire cela. Nous, à la moindre peccadille de l'autre, nous nous fermons, et ceux que nous aimions deviennent nos proies pour les humilier ou les détester. Notre Père est un Père qui aime jusqu'à la mort. Puissions-nous être des fils et des filles exemplaires pour sa gloire et non pour notre amour propre. Que ces moments d'isolement pour cause de confinement nous fassent prendre conscience de l'amour que Dieu nous porte et de l'amour que nous devons lui rendre, ainsi que de celui que nous devons aux autres. Dans l'épître de Pierre, la première, chapitre 4, verset 8, il nous est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. »
Wow.
Cyprien. Oh, quelle tendresse, quel immense amour! Cet amour me presse d'aimer à mon tour. Aimer, c'est te suivre et c'est obéir. Aimer, oui, c'est vivre et s'épanouir. Seigneur, nous voulons faire nôtre cette strophe de cantique pour renouveler notre amour face au tien. Que la parole qui va nous être apportée par Daniel serve à nous rapprocher de ton cœur de Père. En Jésus-Christ. Amen.
Bonjour chers amis, avant de vous proposer le message que j'ai à cœur de vous délivrer aujourd'hui, je vous propose une découverte musicale. J'ai découvert un panel chanteur sur la Chapelle Musique. Fondée en 2020, la Chapelle Musique est un label de musique basé à Montréal, au Québec, qui regroupe des artistes francophones issus de l'église La Chapelle. Ces artistes, à l'âme curieuse et aventurière, poursuivent le but d'honorer Dieu par des mots et des mélodies qui aspirent à mettre une trame sonore au moment de louange de nos vies. Je vous propose donc d'écouter Sébastien Korn avec la chanson qui a pour titre « J'essaierai encore ».
ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir.
Fuir, une solution des plus faciles quand on n'a pas d'autre alternative en vue. Fuir ses responsabilités car elles sont trop lourdes à porter. Bon nombre d'entre nous n'ont rien trouvé de mieux à faire car chercher une solution à leurs problèmes semblait trop difficile. Alors la solution de facilité, fuir pour oublier. Mais les problèmes nous rattrapent tôt ou tard. Fuir sa famille car elle devient intenable. La vie devient trop dure au sein de cette famille. Le conjoint, les enfants, les parents, la belle famille, non, cela devient trop lourd à supporter. Il faut trouver une solution. Au lieu de s'asseoir et dialoguer, on fait ses valises, on part loin, le plus loin possible de ses problèmes, afin de trouver la paix. Mais trouve-t-on la paix dans la fuite? Et bien sûr, il y a d'autres raisons pour fuir. Fuir la justice quand on a commis des délits. Fuir son pays parce que le pays est en guerre, fuir la misère, etc. L'homme est perpétuellement en fuite par manque de paix, de sécurité. Et par-dessus tout, l'homme fuit Dieu. Il en a peur. Il n'y croit pas, et pourtant il fuit constamment devant sa face. Il ne veut pas le rencontrer, même s'il existe, parce qu'il est en désaccord avec lui, et il refuse son contact. Dans la Bible, nous avons quelques exemples de personnes ayant pris la fuite dans leur vie pour différentes raisons. Notamment Adam et Ève se cachent, fuient la présence de Dieu parce qu'ils ont découvert leur nudité, car ils ont fait entrer le péché dans le monde. Nous voyons aussi Jacob s'enfuit, loin de son frère, car il est trompeur. Il a trompé tout le monde. Il a sa conscience qui lui parle, il se sent mal, il a peur, il s'enfuit. David, le grand roi David, fuit à plusieurs reprises, car le roi Saül voulait sa mort. Il fuira aussi suite à une tentative de coup d'État organisée par son fils Absalom. Je pense aussi au prophète Élie, fuyant la reine Jézabel, la peur au ventre, sachant qu'elle voulait le tuer. Jésus lui-même a fui. Petit enfant, il a dû fuir avec ses parents. Le roi Hérode avait décidé de tuer tous les enfants en bas âge, car on lui annonce la naissance d'un nouveau roi. Son père Joseph, informé par un ange, prend la fuite avec Marie et l'enfant Jésus. Ils s'enfuiront en Égypte afin de sauver leur vie. L'apôtre Paul a dû s'enfuir pour préserver sa vie. Nous voyons ainsi qu'il y a dans la parole de Dieu plusieurs personnages dont la seule solution, se présentant à eux, était la fuite. Aujourd'hui, je désire vous parler d'un personnage, je dirais, un peu bizarre, que Dieu a utilisé, mais ce personnage lui a donné pas mal de fil à retordre. Cet homme fuit pour cause de désobéissance à la volonté de Dieu. Il ne voulait pas obéir à l'ordre de Dieu, car cela n'était pas dans ses plans. Et même si nous le pointons du doigt, ce cher prophète, car c'en est un, nous lui ressemblons tellement souvent. Nous-mêmes, nous aimons faire à notre tête, entreprendre des actions sans l'accord de notre Dieu, ou bien faire le contraire de ce qu'il nous demande. Je suppose que vous l'avez deviné, je vais vous parler du prophète Jonas. Nous ferons notre lecture dans le livre de Jonas, au chapitre 1er. Je lis cela dans la version du Sommeur. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitai, en ces termes, « Mets-toi en route. Va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Il descendit au port de Jaffa où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi ? Tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu ?» Jonas leur répondit « Je suis hébreu. Je révère l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfouillaient loin de la présence de Dieu. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent « Que ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent « Ô Seigneur, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent vers lui par des vœux. Jonas est interpellé par Dieu afin d'aller menacer la ville de Ninive, ville vivant dans la plus grande débauche. Le plan de Dieu était d'amener cette ville à la repentance. Enfin, Dieu l'espérait. C'est ce que nous voyons dans la suite de l'histoire de ce prophète. Mais nous n'avons pas le temps d'analyser tout le livre de Jonas. Je vous propose donc de continuer la lecture de ce livre fort riche en enseignements pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Vous verrez, c'est très instructif que de lire ce récit. Décidément, ce n'était pas le programme de Jonas, et il préfère prendre la fuite. Et il est bien précisé, loin de la présence de Dieu. Pourquoi n'obéit-il pas au commandement de Dieu? Comme je vous l'ai dit, Dieu a toujours un plan pour la vie de l'humanité. Et comme notre Dieu est un Dieu d'amour, désirant que l'homme se réconcilie avec lui, il désirait un sursaut de bon sens des habitants de la ville de Ninive, l'amenant ainsi à la repentance. Et Jonas l'avait bien compris de suite. Comme il le dira au chapitre 4 de ce livre, il dira ceci, je le cite, « car je savais que tu es un Dieu plein de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Et cela, Jonas ne le supportait pas, parce que son cœur n'était pas rempli d'amour pour les perdus, et surtout pas pour une ville païenne. Et si je m'arrête et je nous pose la question, aimons-nous les perdus? Aimons-nous les personnes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec Dieu? Obéissons-nous à la voix de Dieu quand il nous demande de leur parler de son amour afin de les amener à la repentance et à la connaissance de son amour? Ou réagissons-nous comme son prophète Jonas? Nous nous enfouillons en faisant à notre tête. S'enfuir afin de ne pas obéir au plan de Dieu pour notre vie et pour autrui. Mais cela est une chose grave, car nous bouleversons la volonté de Dieu pour notre vie et pour celle de notre prochain. Réfléchissons à notre comportement quand le Seigneur nous demande d'accomplir une mission pour lui et que nous refusons. Quelle responsabilité terrible nous portons. Ne pas obéir et ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et Jonas s'enfuit loin de Dieu. Enfin, il le croit. Mais Dieu n'est jamais loin de nous, spécialement quand nous voulons le fuir. David résume bien cette situation, lui ayant vécu des moments d'éloignement de Dieu par son attitude ou par sa conduite. Il nous dit ceci au psaume 139, à partir du verset 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis « au moins les ténèbres me couvriront », la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quoi que nous fassions, où nous voulons fuir, Dieu nous retrouve toujours. Il se mettra en travers de notre route, soyons-en certains. Chers amis, il nous est impossible de lui échapper. Et Jonas avait l'impression qu'en fuyant sur ce bateau, il fuira loin de ses ennuis avec Dieu. Il pensait que Dieu le laisserait tranquille et qu'il abandonnerait son projet de l'utiliser pour cette mission à Ninive. Chers amis chrétiens, Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour chacun de nous. Il a une mission bien précise. Il désire que nous accomplissions ses plans, car il veut utiliser chacun de ses enfants pour travailler pour lui. À nous de lui obéir, si nous ne voulons pas traverser une mer déchaînée, afin que nous comprenions alors quel est le plan de Dieu pour notre vie. Et notre ami Jonas traverse un moment terrible de tempête dans sa vie. Peut-être vivons-nous, ou vivez-vous, une tempête dans votre vie en ce moment. Voulons-nous nous arrêter et prendre le temps de réfléchir? Pourquoi cette tempête? Dieu en est-il la cause? Ou est-ce notre fuite en avant, loin de la volonté de Dieu qui en est la cause? Fuir, et encore fuir nos responsabilités. C'est souvent ce que nous faisons de mieux dans notre vie. Ensuite, nous sommes surpris d'être ballottés par la tempête sur ce bateau qui nous emmène à Tarsis, loin de la volonté de Dieu, loin de sa présence. Loin surtout de cette présence rassurante. Cette présence nous est nécessaire afin de diriger notre vie. Chers amis, arrêtons de fuir Dieu, de fuir nos responsabilités. Dieu utilise ce moyen terrible pour Jonas, une puissante tempête. Dieu désire pour Jonas une remise en question sur sa foi, sur sa mission. Et l'humour de Dieu est puissant. Il utilise pour cela des païens qui l'interpellent, le secourant sur ses bases, sur les fondements de sa croyance. Dieu utilise qui il veut pour nous parler, pour nous remettre sur le droit chemin, afin de nous faire prendre conscience de notre état spirituel. Un jour, il a même utilisé une ânesse pour parler à un prophète qui était désobéissant. Je vous en conjure, laissons-nous remonter les bretelles, même si cela est fait par des non-chrétiens. Réalisons que Dieu a un plan pour chacun de nous et il ne veut pas que nous fuyions chaque fois qu'il nous appelle à accomplir un travail pour lui. Oui, Dieu doit parfois utiliser la manière forte afin de nous ramener à la raison. C'est ce que Jonas avait besoin, une remise en question. Et là, sur ce bateau, il réalise combien il est désobéissant. Il voit où cela l'amène. Il met en danger la vie de ces pauvres marins. Chers amis, frères et sœurs, réalisons-nous que la désobéissance à notre Dieu, quand il nous demande d'accomplir une mission pour lui, peut conduire à des catastrophes irréversibles envers autrui. Avons-nous jamais pensé à cela? Aujourd'hui, je vous encourage à ne pas fuir vos responsabilités. Dieu nous appelle chacun à accomplir un travail, obéissons. Il en va de notre santé spirituelle et de la santé physique de notre entourage parfois. Jonas a été jeté dans les abysses de la mer afin qu'il comprenne ce que Dieu voulait lui faire comprendre. Il sera hébergé par un grand poisson et Dieu, dans ce lieu particulier, se révélera à lui, afin qu'il accomplisse enfin le plan de Dieu pour Ninive. Et cette ville a été conduite à la repentance, et comme je l'ai déjà dit, au grand désespoir de Jonas. Mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet aujourd'hui, ce sera peut-être l'objet d'une autre méditation, une autre fois. Mais aujourd'hui, l'appel que je lance à chacun de nous est le suivant. Répondons oui quand Dieu nous demande d'accomplir un travail pour lui. N'attendons pas d'être ballottés par la tempête et de toucher le fond, tout comme Jonas. Car l'obéissance nous évitera bien des déboires dans notre vie. Obéir à Dieu nous conduit sur le chemin de la paix intérieure et la paix avec Dieu et la joie du service. La fuite en avant loin de Dieu ne peut nous conduire qu'à une vie malheureuse, à une vie chrétienne terne, sans joie, sans goût. Chers amis chrétiens, si nous avons perdu la joie de vivre, la joie du service, demandons-nous si nous ne fuyons pas loin de Dieu, car nous ne voulons pas accomplir ce qu'il nous demande. Ou alors, fuyons-nous Dieu parce que nous sommes en désaccord avec lui? Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie pour le chrétien fuyant Dieu. Voulons-nous vivre une vie chrétienne épanouie? Oui, je l'entends, votre réponse est oui, je l'entends. Alors, ne fuyons pas la volonté de Dieu quand il nous appelle. Aujourd'hui, mon ami, arrête de fuir et obéis à ton Dieu. Et comme le fils prodigue, ayant fui la maison de son père, reviens vers Dieu, en paix aimant, il attend ton retour. Ne fuis plus Dieu, mais reviens repentant, et il t'accueillera. Que le Seigneur nous bénisse. Prions notre Dieu. Mon Dieu, tu es un Dieu d'amour, toujours prêt à accueillir celui qui revient vers toi. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu vois notre situation personnelle. Reçois le cœur repentant revenant vers toi. Tu es prêt à pardonner et restaurer ton enfant qui se tourne vers toi en ce moment. Merci pour le pardon que tu accordes. Amen. Chers amis, nous sommes bientôt à la fin de cette transmission. Je vous propose une chanson avec un artiste de la Chapelle Musique de Montréal. je vais vous faire écouter une chanson qui a pour titre « Du deuil à la victoire », interprétée par La Chapelle Musique et Philippe Bedard.
Yeah.
nous allons nous séparer. Malheureusement, la situation actuelle nous empêche de nous rassembler dans notre chapelle. En mon nom et au nom de toute la communauté protestante de Blegny, je vous invite à vous connecter encore la semaine prochaine sur notre site afin de vous joindre à nous pour un nouveau culte. Que le Dieu de paix vous assure sa protection. Recevez de sa part une grâce abondante. Portez-vous bien, soyez prudents. Bonne semaine, à bientôt.